Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. On est là, on est bien, magnifique émission. Oui, la Ligue des Champions, le débrief de la Ligue des Champions. Bah oui, maintenant on est en mode Europa League aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, pendant plus d'une heure, on va parler du Paris Saint-Germain, de ce qui s'est passé hier. On va refaire le match, bien sûr, et encore mieux que dans toutes les émissions, parce que quelle émission aujourd'hui, qu'est-ce que je suis bien entouré en milieu de semaine comme ça avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Ça va et toi?
Ouais, bah là on est bien, il y en a, il y en a qui sont assez énervés. Les anti-parisiens, c'était bien de les avoir après le match, comme ça, après une défaite, comme ça ils vont se lâcher.
Les anti-parisiens.
Christophe Dugarry, salut Christophe.
Salut Dugarry.
Bonsoir messieurs, je fais partie des anti-parisiens, dis-moi, explique-moi.
Non.
Oh, bien sûr que t'es un anti-parisien,
oui,
on le sait.
Ok, non, mais écoute. Non, mais c'est bien de voir comment tu.
Enfin, du gars, il s'en fout des clubs.
Que tu me dises comment tu me vois, comment tu me sens. Voilà, non, mais très bien, écoute.
Voilà, bah écoute, on en a.
Je me sens pas comme ça, mais écoute,
non,
si tu me sens, y a pas de
bien
soucis.
Sûr. Non, mais j'ai confondu. Eric Dimeco avec nous. Salut, Eric.
Salut. Dis-moi, ne t'habitues pas trop quand même à me faire travailler à milieu de semaine, toi, surtout pour me recevoir comme ça, plus. Hein.
Bah,
tu crois quoi, toi?
Franchement,
je me suis disputé avec Pierrot, mais disputé avec toi.
Ouais. Et
non,
c'est pas fini.
Tu vas pas te disputer. Moi, je t'ai entendu, mais je pense
et
que.
Et tu vas te disputer avec moi, mon Rico.
Eh ben voilà, il était un gote.
Quel jour.
Alors que ça se saucissonne tous les deux, on va se disputer. T'es un gote, toi.
C'est fou.
Bon, après, vous détestez. Donc,
t'imagines les semaines d'Eric, il se réconcilie avec Vatal lundi et il se fâche avec tous ses amis en semaine.
Avec Pierrot.
Terrible. Bon, c'est un événement, évidemment, ce Rotten sans flamme. Ce soir, spécial Coupe d'Europe. On va revenir sur la défaite du PSG contre Barcelone hier, 3-2, car aller de la Ligue des Champions. À 18h30, Kylian Mbappé sera l'accusé du soir. Accusé d'être passé totalement à côté de son match. Aucun tir cadré, 13 ballons perdus. Il a déçu dans ce grand rendez-vous. C'était peut-être l'un de ses derniers matchs sous le maillot parisien au Parc des Princes en Ligue des Champions. C'était soit l'avant-dernier, soit le dernier. Peut-être le dernier, donc, pour Kylian Mbappé. À 18h45, le casard enchaîné. Débriefing de Luis Enrique après le match. Julien avait placé un micro dans le vestiaire du PSG, donc vous entendrez tout ça. Ça s'annonce fameux. Et puis à 19h, on passe en mode Ligue Europa, tu l'as dit, Jérôme. Rotten se chauffe. Jérôme ne croit pas une seconde au miracle de la Coupe d'Europe pour l'OM. Quart de finale de Ligue Europa sur la pelouse du Benfica pour les Marseillais ce soir. On en parlera avec Duga, avec Eric et avec vous, supporters de l'OM, au 32-16. Et puis on n'oublie pas Lille à 19h30. Le troisième club français toujours engagé en Coupe d'Europe. Lille en déplacement à Aston Villa. Le LOSC est-il assez armé pour tenir tête aux Anglais? Jérôme, oui. Le PSG a perdu, mais l'expérience RMC continue.
Ah,
on
oui.
vous propose toujours
eh oui, parce
l'expérience.
Que rien n'est perdu.
Rien n'est perdu. La remontada est possible,
ça,
Jérôme.
Alors, on ne va pas appeler ça une remontada quand même. Bon, un but d'écart.
Ah, ouais, c'est vrai. Barcelone-PSG, c'est mardi prochain, le 16 avril. On vous offre le voyage, la nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC Sport avant le match, la place pour le match. Écoutez bien l'émission. Quand je vous donnerai le signal sonore, la musique de la Ligue des Champions, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. Mais on y va tout de suite sur Paris. L'histoire se répète pour les Parisiens en Ligue des Champions.
Dembélé qui va la récupérer. Ouais, allez, le voilà. Enfin,
tout arrive.
Décisif. Dembélé.
Moi, je trouve le PSG bien meilleur et en progression. Ça, c'est vrai. Ouais. Et ils m'ont agréablement surpris sur les dernières prestations.
Luis, l'appel, l'accélération. Vitinha. Oh, quel but. Oh, quel but de Vitinha.
L'avantage du Paris Saint-Germain, c'est que t'as Kylian Mbappé, peut-être le meilleur attaquant au monde. Ah bah, d'accord. T'as un grand gardien dans les buts. T'as l'avantage d'avoir ces deux postes essentiels, deux repères pour le PSG.
Ça
change bien les choses. Hein.
Oh là.
L'égalisation pour Barcelone et le doublé pour Rafinha. Christensen de la tête qui bat tout le monde, qui saute plus haut que tout le monde, renversant le Paris Saint-Germain. C'est confirmé. Défaite du Paris Saint-Germain. Au Parc des Princes, 3-2.
Viser la lune, ça me fait pas peur.
Tu l'adores, Amel Bent.
Ah, bah oui, on l'embrasse, elle nous écoute tous les jours.
C'est vrai.
Avec son mari.
Systématiquement.
Non, mais c'est vrai qu'elle nous écoute beaucoup.
Une auditrice fidèle.
Eh ouais, on l'embrasse.
Duga, Eric, Jérôme, c'était le rendez-vous de l'année. Il ne s'est pas bien passé. Le PSG s'est incliné 3-2, donc au Parc des Princes face au Barça, quart de finale de la Ligue des Champions. Un scénario à rebondissement, des choix surprenants de Luis Enrique, Marquinhos arrière droit, Asensio et Lee titulaire, 6 gauchers titularisés dans le 11 avec les 10 joueurs de champ. Autre élément important, la faillite des cadres Donnarumma et Kylian Mbappé, dont on parlera à 18h30. Paris va désormais devoir réaliser un exploit inédit s'il veut atteindre les demi-finales. Aucun club français ne s'est qualifié en C1 après avoir perdu le match aller à domicile. Le PSG a-t-il touché ses limites hier soir 32-16 pour participer au débat avec nous? Est-ce que ça y est, on a trouvé les limites de ce PSG, Jérôme Bretagne?
Les limites, je sais pas. Non, j'irai pas jusqu'aux limites. Par contre, moi, je vais axer sur la déception. Vous m'avez entendu avant le match hier. J'étais très positif, à juste titre, par rapport à ce que je voyais. Je suis comme quoi, je suis pas visionnaire parce que j'ai été trahi par des amis. En fait, j'ai été trahi par le gardien et par le meilleur joueur de l'équipe, Kylian Mbappé. Mais si on dit ça, la trahison vient plus du style du Paris Saint-Germain. Comment tu appréhendes ces grands rendez-vous? C'est des matchs incroyables à vivre. L'avantage, c'est que...
Surtout que tu nous avais dit, Jérôme, que la mentalité avait changé.
Oui, c'est vrai.
Tu avais insisté, là, depuis des mois, tu insistes sur le fait que la mentalité, l'ambiance, l'atmosphère, l'envie des joueurs a changé.
C'est vrai, du gars.
Malheureusement, non. Ça ne s'est pas vu.
Mais oui, mais c'est là-dessus que je sens la trahison. Alors, la trahison est un grand mot, mais...
Non, je crois pas.
Mais franchement, je ne comprends pas. Tout le monde est unanime pour dire que au sein du club, il y a de la sérénité, il y a de l'affection entre eux, beaucoup plus qu'il y avait. Il y a un entraîneur qui est, où tous les joueurs, et là je me suis pris la tête hier avec Daniel Riolo, tous les joueurs, quasiment tous les joueurs, adhèrent à son projet et à ce projet-là qui est ambitieux et qui est parfois même compliqué à comprendre. Et on l'a vu encore hier avec l'équipe qui met en place. Mais une fois que tu as dit ça, moi je reste persuadé que ces matchs-là se jouent aussi d'un point de vue mental. Et mentalement, je suis désolé, quand tu joues un match à domicile, dans un stade, et du gars Eric, vous y étiez pas, nous on y était. Je peux te dire que c'est la meilleure ambiance des quatre quarts de finalistes, quart de finale qu'il y a eu.
Le public a été au rendez-vous.
Il y avait une ambiance de malade. Les gens, ils attendaient que ça, de suivre leur équipe, de les pousser. Mais quant à cette ambiance-là.
Le problème, c'est qu'il n'y avait que le public.
Oui, mais du gars, moi, il y a quelque chose, et c'est pour ça que je te parle de trahison. C'est que, encore une fois, et ça se répète à Paris, et c'est là que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le supplément d'âme. Pourquoi il n'y a pas l'envie de se transcender. Beaucoup plus individuellement, je ne parle même pas du collectif, je parle individuellement. Pourquoi tu ne fais pas plus d'efforts qu'à l'accoutumée? Pourquoi au premier coup dur ou à la première fatigue, les mecs, ils se regardent un peu, ils regardent leur pompe, la plupart, et puis ils se disent.
T'as vu ça toi hier soir?
Ouais, j'ai vu ça de la part des attaquants. Et on parlera de Kylian Mbappé, entre autres, mais je suis désolé, mais il y a des attitudes sur ces matchs-là. Tu dois te servir du public pour les emmener avec toi et qu'ils restent et que ça soit dur. Parce qu'en face, il y avait des gamins aussi. Il y a des gamins. Et les gamins, on est passé par là. Quand t'as un peu moins d'expérience dans un climat hostile qui est difficile avec un adversaire qui a envie de te monter dessus, c'est difficile de jouer au football. C'est la réalité pour tous les grands joueurs et tous les jeunes joueurs. Le problème, c'est qu'à Paris, au bout d'un quart d'heure, parce que le PSG avait bien démarré son match, ça a duré 10 minutes seulement. Et il y en a qu'un qui a montré l'exemple, c'est Nuno Mendes. C'est trop peu. C'est trop peu. On parlait des cadres, eux ils doivent faire les efforts pour emmener les gens, pour avoir envie de les supporter. Et au bout de 10 minutes, t'as pu gagner un duel. Ça, c'est pas possible dans le football. Que tu sois un joueur technique, et je me suis pris la tête hier dans l'after avec Daniel Riolo là-dessus, dire il peut me raconter ce qu'il veut, oui, il met des guerriers et tout ça, mais si c'était la solution de mettre que des guerriers, ça serait. Non, il faut des bons joueurs de football. Mais le bon joueur de football, comment il s'éclate? C'est en gagnant déjà les deuxièmes ballons, en gagnant les duels. Le problème, c'est qu'à Paris, au bout de 10 minutes, un quart d'heure hier, t'as senti que l'adversaire il prenait le dessus, que Lewandowski il a joué dans son salon tranquille et je dévide la tête et je garde le ballon dos au but et que du Gundogan pareil, De Jong qu'il a fait un match alors qu'il revient de blessure, jamais tu lui as mis une pression, il a gagné 3 duels sur 4 de Jong. Quand toi à contrario, tes milieux de terrain, Lee, Asensio, Vitinha en première mi-temps, parce que autant la deuxième il a été bien meilleur, mais la première mi-temps, Ruiz ont gagné un duel sur 5, mais c'est pas possible, tu peux pas gagner un match de football comme ça. Et après tu peux me parler de toutes les dispositions tactiques que tu veux au monde, si psychologiquement t'es pas prêt à faire beaucoup plus d'efforts au Parc des Princes pour emmener les 50 000 personnes qui étaient là et qui avaient envie de vibrer tout au long du match pour renverser Barcelone, tu n'y arriveras pas.
Voilà. Duga, est-ce que le PSG a touché ses limites hier?
Oui, ses limites, oui, forcément. Hier ça a été à mon avis le cas. Les limites de l'organisation de son entraîneur, la limite des dingueries de son entraîneur, encore qui nous a préparé un truc en avant-match. voilà, qui a absolument servi à rien à son équipe. Alors après, j'entends ce que dit Jérôme et je partage son avis, bien sûr. Mais on peut pas parler non plus que d'envie. Y a aussi des gens qui ont des responsabilités, les joueurs, mais aussi un entraîneur qui est là pour faire une composition d'équipe, qui doit permettre à son équipe d'être meilleure. Il doit annoncer à son équipe des intentions de jeu, qui doivent permettre à son équipe d'être meilleure, d'être conquérante, d'avoir cette possession. Et ça, malheureusement, je n'ai toujours pas compris à quoi a servi la tutélarisation de Asensio. Pourquoi il a été mis là? Je comprends pas.
À rien, parce qu'il est sorti à la mi-temps.
Qu'est-ce qu'il a voulu faire de ce joueur en le mettant dans cette position et en le titularisant? Je sais pas. La même chose pour Kang In-Lee. Alors, l'avantage avec Kang In-Lee, c'est que t'es jamais surpris de ce garçon. Ouais. C'est-à-dire qu'il joue toujours de la même manière. C'est-à-dire tricoter sur son pied gauche et mettre des espèces de ballons devant ou,
voilà, bon, je sais bon, j'ai pas.
Une passe à un voilà, je sais pas à quoi ce garçon sert. Il a certainement des qualités, il a certainement du talent, mais pour l'instant,
c'est, on l'a pas vu, hein.
C'est une énigme absolue. T'es jamais déçu, hein. T'es jamais déçu parce que.
Bah non, il te propose jamais rien. T'attends rien.
Voilà, il te propose jamais.
Mètre, donc ça va, c'est une passe à un mètre voilà. Systématiquement.
Donc forcément, je comprends pas ce que Luis Enrique, qui a l'ADN du Barça plus que n'importe qui d'autre, a voulu mettre en place. Moi, j'avais identifié avant le match, parce que je m'amuse toujours un petit peu à le faire. Je me suis dit quel est le point faible de cette équipe du Barça. Où va souffrir le Barça? Où va souffrir le Paris Saint-Germain? Pour moi, le point faible, il était criant hier. C'était le côté droit et le poste derrière droit de Koundé. Voilà, pour moi Koundé c'est pas son poste, ça ne le sera jamais. Je le trouve en énorme difficulté quand il a le ballon et quand il ne l'a pas. Pour moi la difficulté et le point qu'il fallait cibler du côté du Barça, c'était ce côté droit, PSG, ce côté gauche. Ouais. Voilà, du Paris Saint-Germain. Je m'attendais à avoir un pressing, c'est-à-dire laisser Koundé tout seul par exemple et au moment où il recevait le ballon, tu déclenches un pressing fort, tu le montes fort un peu sur lui et les ballons tu allais tous les récupérer les uns après les autres et puis tu le mettais Kylian Mbappé de manière systématique, t'insistais sur Kylian Mbappé pour qu'il aille le percuter avec Mendes qui dédoublait dans son dos. Je trouvais que là ça pouvait apporter quelque chose d'intéressant.
Ouais, mais pour faire ça, je n'ai pas pour récupérer les ballons.
Je n'ai pas compris comment le Paris Saint-Germain a voulu jouer une nouvelle fois. Alors ça c'est arrivé des dizaines de fois depuis que Luis Enrique est l'entraîneur. C'est pas une surprise. Je suis pas entraîneur. Lui, comme il nous a expliqué, il voit ce qui se passe à l'entraînement. Il connaît ses joueurs. Il le voit mieux que quiconque. Et il a mis l'équipe qui pensait être la meilleure pour contrer ce Barça-là. Eh ben écoute, je pense que les joueurs ont une énorme responsabilité. Mais une nouvelle fois, Luis Enrique nous a enfumé. Il a un boulard démesuré. Une nouvelle fois avant le match, il nous expliquait que le Barça, c'était lui. Voilà, l'ADN du Barça, c'est lui.
Ouais, ce qui est, certain.
Mais retourne-y. Retourne-y aussi, il n'y a pas de problème.
Et Dugas, ce qui est certainement une erreur de com' aussi, parce que.
Non, mais il s'en fiche, erreur de com', il a un boulard.
Non, mais oui, il n'y a rien de tel pour exciter aussi l'adversaire, pour exciter l'entraîneur d'en face. Quand tu prends une réflexion comme ça, c'est pas très malin de sa part.
Je vais te dire, il est content du résultat d'hier parce qu'il va pouvoir préparer, concocter quelque chose qui va faire que là, on va dire, est-ce que c'est la victoire si ce qualifie, parce que je crois encore qu'ils peuvent se qualifier au prochain match.
Oui, parce qu'il y a qu'un but
au match retour. Voilà, c'est Luis. Qu'est-ce que va nous préparer Luis Enrique? Ça va être lui qui va réussir à sortir le coup du siècle, qui va inventer quelque chose qui va faire que si ça fonctionne, ce sera un génie. Bon, mais très bien. Eh bien, écoute, bravo, monsieur Enrique. J'ai hâte de vous voir au match retour. Bon,
en tout cas, la première manche, Eric, elle est ratée, hein, du Paris Saint-Germain.
Ouais, alors écoute, tout ce qu'on dit là ce soir sera peut-être contredit la semaine prochaine parce que quand tu as des Dembélé, non mais je sais bien, mais quand on a des Dembélé ou des Mbappé dans un match, c'est vrai que ça peut faire la différence. Sauf que moi et d'ailleurs je vais vous poser des questions puisque des fois moi je perds la mémoire. Jérôme, toi, quand vous faites la finale de la Ligue des Champions, on est d'accord, si je me souviens bien, parce que j'avais suivi cette campagne-là attentivement, il y avait pratiquement toujours la même équipe, si je me souviens bien, sur la campagne et les gros matchs.
Non, mais t'as raison.
Et du gars, on est d'accord. Et même en championnat, je pense que en plus vous étiez en lutte pour le titre cette année-là.
Ouais,
donc c'était toujours la même équipe, on est d'accord. Vous jouiez tous les. Quand je dis la même équipe, c'est à un ou deux près. Hein.
Oui.
Et un ou deux près, c'est du poste pour poste, avec des mecs qui toute l'année bossent avec tout le monde.
Du gars,
je présume que quand vous faites la finale, vous aussi, avec c'est la finale ou non? Le Milan là par exemple, c'est la finale sur pareil, il me semble que vous aviez,
c'est
il y avait un joueur de champ, il y avait 8-9 mecs, c'est toujours les mêmes, on est d'accord. Et donc moi pour répondre à la question du jour, moi sur ce que je vois ces dernières semaines au PSG, Et ce qu'on a vu pendant la phase de poule, voire même pendant toute la campagne européenne, on n'est pas étonné finalement. Enfin, moi, je suis pas étonné de ce que j'ai vu hier soir. Je m'explique. On attendait que le PSG monte son niveau à ce moment-là de l'année. Et c'est possible qu'une équipe qui est reconstituée à 50% mette trois mois de plus pour atteindre le haut niveau. Sauf que... Et donc, je vous confirme que moi aussi, chaque fois qu'on a fait des campagnes où on est allé loin, il y avait une ossature forte avec un système de jeu et avec des idées de jeu qu'on avait travaillées tout au long de l'année et qui souvent étaient difficiles à inculquer. Et donc, et c'est pour ça que c'est là où je vais en venir. J'en ai déjà parlé tout à l'heure et j'en ai même parlé pendant le mois qui vient de passer. Là, on radote tout le temps dans cette émission. Mais hier soir, on a vu.
Dans le Moscato Show, pas dans
plus dans le Moscato Show, bien sûr. Donc, on est d'accord hier soir, Edugal a dit Asensio pour déclencher le pressing. On attendait qu'il déclenche un pressing pour mettre un peu de la folie dans ce match. On est d'accord.
Ouais.
Et donc, vous pensez pas, mais il y a des gens, mais même au sein de cette radio, qui pensaient que en faisant jamais la même équipe, jamais le même système, des mecs qui un coup sont à droite, un coup sont à gauche, un coup sont au milieu, un coup sont devant, un coup sont défenseur central, un coup sont à l'arrière. Ils pensaient qu'hier soir, il y aurait un pressing cohérent. Mais vous savez, le pressing, ce que c'est, je le disais tout à l'heure dans le Moscato Show, c'est de l'horlogerie. C'est-à-dire que, et à plus souvent, celui qui provoque le pressing, c'est l'avançant. Parce que c'est lui qui fait partir le ballon du côté où il veut. C'est-à-dire que, comme le disait Dugas, tu peux quand t'es avançant, parce que Ter Stegen, il avait le ballon dans les pieds et il relance dans les pieds, qu'est-ce que tu fais? Tu vas un peu à droite pour qu'il relance sur Koundé. C'est toi qui déclenche le pressing. Et là, derrière, toutes les courses, toutes les couvertures, toutes les courses, c'est un travail d'orfèvrerie que tu mets souvent 6 mois à acquérir quand déjà tu as un entraîneur qui te fait travailler ça. À l'entraînement, contre les bidons, et après, en opposition, et en marche, en match. Et oui, c'est ça.
Mais oui,
tu le travailles tout seul dans un premier temps où il met le ballon à droite, tout le monde se déplace, il met le ballon à gauche, tout le monde. C'est pas, après tu mets contre les adversaires et après tu mets en match. Et là, donc, on m'explique, moi, depuis 2 mois, que le PSG va arriver en Ligue des Champions et va faire un pressing contre le Barça avec la qualité du
parce que c'est Luis Enrique qui a réussi à embrouiller
Donc, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment. En plus, les qualités et les défauts de son équipe et de ses joueurs, on les connaît. Et il a quand même assez de recul pour analyser. Donc, il n'y a pas moyen. Un mois avant, je ne dis pas de le faire 3 mois avant, un mois avant, quand tu connais ton adversaire et que tu bosses à l'entraînement et en match de championnat, puisqu'en plus, ils ont la chance de pas avoir la pression sur les matchs de championnat, donc de pouvoir le bosser. C'est-à-dire... Et donc, il y a toujours des changements, mais c'est pas un ou deux, c'est 4 ou 5 chaque fois.
Si j'entends ce que vous dites, pour vous, le responsable de la défaite d'hier, c'est Luis Enrique.
Mais non, mais c'est tout le monde.
Il faut arrêter de vouloir chercher toujours des pistes de changer des joueurs et tout. Il a pas mis son équipe dans les meilleures conditions pour gagner ce match compétitif.
Après, tu as le droit de faire mieux que ce qu'ils ont fait hier soir aussi.
C'est ce que vous dites.
Non, mais quand tu fais ce genre de résultat à ce niveau-là, c'est la faute de peu tout le monde. Mais moi, je trouve que ça se sentait ce coup-là. Ça se sentait sur ces dernières semaines. Et je te dis, la semaine prochaine, peut-être que ils ont 2 ou 3 mecs qui peuvent faire empailler un match.
Eric, allons sur ton terrain. Excuse-moi, Eric, allons sur ton terrain. Mais Asensio, il le met uniquement pour le pressing. Parce que tu penses que.
Je ne sais pas pourquoi il le met, puisqu'il n'a pas mis ces derniers temps à ce poste-là.
Ah, d'accord.
C'était un coup Ramos, c'est un coup même Dembélé qui a joué là sur le dernier match de Coupe d'Europe. Donc moi, je ne comprends pas, moi.
Moi, c'est ça que j'aimerais comprendre, puisque Luis Enrique nous explique. Qu'est-ce que t'as voulu faire? Qu'est-ce que t'as voulu mettre en place?
Non, mais même,
il est là. Tiens, Dugas, Eric, si vous voulez, on va écouter sa justification après le match, parce que voilà sa réaction après les questions sur le positionnement et le 11 aligné justement pour affronter le Barça. Écoutez.
Parce que la seule personne dans cette salle qui voit toutes les séances d'entraînement, qui connaît, répète et revoit tous les matchs, c'est moi. Parce que c'est pour cela que je suis l'entraîneur. Parce que c'est pour cela que je travaille depuis tant d'années et que j'ai pensé que c'était les meilleurs joueurs, les mieux préparés et ceux qui étaient dans le meilleur moment. Il est évident que le résultat discrédite mes décisions, mais je l'accepte volontiers. Tout ce qu'une défaite implique, je l'accepte. Je suis un sportif naturel, un professionnel au maximum, je félicite l'adversaire. Ils ont fait un grand match et long gagné, je me prépare au match retour.
Il appuie sur ce qu'il voit à l'entraînement.
Mais ça c'est difficile de le contrer là-dessus parce que à l'arrivée on voit pas les séances d'entraînement.
Pas difficile. Non, mais c'est pas difficile de le contrer.
Non, mais Eric, c'est ce que je veux dire.
Jérôme, dis-moi, cette équipe, donc, s'il a dans la tête depuis un moment et si il a fait travailler ça,
c'est faux. C'est faux.
Ah bon.
C'est faux. C'est pour ça que je te dis que il est obligé de nous mentir. Du moins, nous on voit les matchs, on voit les dernières semaines. Quand il dit c'est l'équipe la mieux et les joueurs les plus en forme en ce moment. Asensio, faux. Ouais. Kang In-Lee, on vient de le dire. On n'a jamais vu un bon match de Kang In-Lee.
Beraldo
qui a pas joué depuis deux matchs.
Et Marquinhos qui vient à peine de revenir de blessure dans le couloir.
Tu mets arrière droit alors qu'il a jamais joué comme ça. Donc excuse-moi, un milieu de terrain où tu sors Zaïre Evry qui était ta pépite depuis le début de l'année où tu l'as mis en avant et tu le sors hier ou un moment où peut-être qu'il faut être un peu combattant et comme par hasard quand il est rentré il a gagné des duels, le gamin.
Il a mis du rythme.
Beaucoup plus que Ruiz en l'espace d'une demi-heure, il a gagné.
Et excuse-moi, Jérôme, puisque tu le connais, tu parles bien le Henrique. Quand il dit on a dominé. on a dominé la première mi-temps, il se fout de notre gueule ou il est sérieux?
Oui, il se fout de notre gueule.
Bon. Ah, d'accord, ok.
Et vous savez, on s'est souvent écharpé là-dessus. Moi, j'essaye d'aller dans son sens parce que je me dis que tu fais pas 27 matchs comme ça sans défaite par hasard. Alors bien sûr qu'il y a dans la période des matchs quand on les analyse, il y a des matchs où on est un petit peu déçu, même si le PSG avait gagné ou match nul, et on se dit tiens, le PSG doit montrer plus de choses, être plus compétitif, être plus cohérent dans certaines choses. Mais à l'arrivée, les résultats parlent pour lui, donc c'est difficile d'aller.
En plus, il a été rassurant parce qu'il a dit on est invaincu à l'extérieur en championnat, à Barcelone, on va faire une belle partie. Vraiment, il nous a rassuré après le match.
Je vais te dire, je vais même pas trahir, je vais pas trahir la personne qui m'a appelé, mais le club, le Paris Saint-Germain m'a appelé aujourd'hui parce qu'ils savent qu'on va revenir sur le match là, en disant attention, il y a encore,
on est à la mi-temps du match, mais ça
je le conçois très bien. Je voulais le mettre en avant en effet.
Mais ça changera rien. La semaine prochaine on
parlera de l'excellent match du Paris Saint-Germain. C'est notre travail.
Mais moi ce que je leur ai dit, c'est que je veux bien entendre ça, il n'y a pas de souci, et de toute façon on est aussi passé par là, et c'est pour ça que moi je suis un peu le garant de ça, du moins j'essaye d'atténuer les critiques et les énervements comme Daniel Riolo hier soir en disant attention, la semaine prochaine il suffit de marquer un but et là les cartes sont redistribuées parce qu'il n'y a plus la règle de but à l'extérieur qui compte double. Donc une fois que tu as dit ça, on est passé par là. Tu peux mener 1-0 à Barcelone, c'est pas non plus l'exploit du siècle, d'accord. Maintenant une fois que tu as dit ça, quand t'entends Luis Enrique aujourd'hui nous expliquer que en effet, comme tu dis, Duga, à l'extérieur on est invaincu au championnat, mais moi je le renvoie à l'appareil, j'aurais été en face de lui quand il me dit ça, je leur ai dit mais combien de matchs t'as gagné à l'extérieur en Ligue des Champions quand ça a été dur, parce que le niveau s'élève en Ligue des Champions, d'accord. T'as pris une branlée à Newcastle, t'as pris une branlée à Milan, et t'es passé, tu t'es qualifié sans gagner à Dortmund, alors que tu méritais d'en prendre comme au boule, tu vois. Donc excuse-moi,
gagné à San Sébastien.
À San Sébastien, c'était la double confrontation et à la Real Sociedad qui est une équipe moyenne, d'accord. Il fallait que la Real Sociedad se livre un peu et ils l'ont pris dans le nez parce que Kylian Mbappé était dans un bon soir. Moi, je te dis juste qu'après ce match-là hier soir, je suis loin d'être positif et optimiste pour le PSG. Ouais. Après, j'attends qu'à être surpris. Hein.
Il faudra contredire cette stat, je vous le rappelle. Jamais un club français qui a perdu à domicile en match aller de C1 n'est parvenu à se qualifier pour le tour suivant. Jimmy, supporter parisien, nous rejoint. Il a composé le 32.
Salut Jimmy.
Salut tout le monde.
Bienvenue.
Bonsoir Jimmy.
On est en pleine forme. On aurait préféré être un peu plus positif, mais on n'a pas vu un grand match.
Ouais, bon alors moi je vous dis, ça fait depuis 20 ans que je suis le PSG. La composition d'hier, je n'ai rien compris. J'ai pas de diplôme, je suis pas entraîneur. Mais le football,
tu vois pas les entraînements toi non plus. T'es nul.
Le football sans numéro 9 et sans 6, je ne les comprends pas. Je ne sais pas d'où il sort ça, où est-ce qu'il a appris ça, mais le football sans attaquant, ça n'existe pas pour moi dans ma tête. C'est pas possible en Ligue des Champions de jouer sans un vrai numéro 10 numéro 9.
Ça a marché ailleurs, mais il y a même un autre truc. Tu regarderas la défense centrale qui fait. Comment tu fais?
Est-ce que vous avez vu Marquinhos en première mi-temps? Marquinhos en première mi-temps, on aurait dit qu'il jouait à la place de Dembélé. On avait l'impression qu'il jouait à la place de Dembélé. Il n'était pas du tout en défense. Je ne comprends pas comment Enrique, il peut appeler.
On n'est pas assez intelligent pour comprendre. Il n'y a que Luis Enrique qui comprend. On est tous des abrutis. Il n'y a que lui qui comprend le foot.
Tu t'en fais. Moi, je sais que tout est possible. Tout est possible. Et on voit souvent des défenses centrales avec deux défenseurs centraux qui sont droitiers. Mais expliquez-moi dans le football, quand est-ce que vous avez vu une défense centrale avec deux gauchers comme ça? Et c'est Didier Deschamps, ton ami Dugas, qui dit, moi, jamais je mettrai deux gauchers en défense centrale. Parce que le problème des gauchers, c'est qu'ils sont généralement que gauchers. Et ils ont l'hémisphère. Ils sont pas constitués comme les autres. C'est d'ailleurs pour ça, puisque hier je vous ai entendu, c'est d'ailleurs pour, Jérôme, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'arrière-gauche qui étaient droitiers, qui ont fait des grosses carrières, Manuel Amoros, je peux t'en trouver 1000 des trucs. Par contre, un arrière droit qui est gaucher, d'un arrière droit gaucher, ça ne s'est jamais vu. Non. Parce que on n'est pas constitué comme vous, nous, les gauchers. Donc, quand tu mets cette défense centrale là, tu sais qu'elle va avoir un problème. C'est obligé qu'elle va avoir un problème.
Mais oui. Ça, tu donnes une leçon à Luis Enrique.
Non, je donne pas de leçon. Jérôme, on est d'accord que la meilleure défense centrale, fait pour moi, mais je vais demander votre avis. Si tout le monde va bien et tout, on part du principe que là, quand tu joues, tout le monde va bien. Ta meilleure défense centrale, c'est pas Marquinhos, Lucas Hernandez?
Ah, si.
Donc pourquoi tu mets pas contre le Barça et Lewandowski d'abord ta meilleure défense et après tu bricoles à côté plutôt?
Évidemment. Et alors, qu'est-ce que t'as dû penser quand Lucas Hernandez?
Tu bricoles nulle part, ni à droite, ni à gauche.
Non, mais tu es obligé de bricoler parce qu'il n'y avait pas d'arrière droit. Tu mets le petit Warren, il me semble.
Merci Jimmy, supporter parisien.
On n'est pas assez intelligent.
Au 32-16. Ouais, peut-être que vous êtes un peu limité, c'est ça votre différence avec Luis Enrique.
Ah non, mais moi je le sais. Mais c'est pour ça que quand j'entends Luis Enrique parler football, je savais que j'étais un abruti. Mais là, vraiment, depuis que Luis Enrique parle football, sincèrement, j'ai honte.
Dans un instant, grand moment à venir, on va ouvrir le procès de Kylian Mbappé, accusé d'être passé totalement à côté de son match hier. Restez avec nous, Rotten sans flamme jusqu'à 20h.
C'est pas ça le procès, j'espère.
Si, c'est ça.
Qui c'est qui va le défendre? Il passait à côté de son match.
Moi, j'ai une petite idée. Jérôme Bretagne.
Passer à côté de son match.
Dumeco,
il y a Fada qui va le défendre, non?
Allez, à tout de suite, sur
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC. On est là dans Rotten sans flamme, la deuxième demi-heure. Elle commence maintenant avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, le moment de Julien Cazard pour se détendre. On a besoin de se détendre parce que ça a été très chaud depuis hier soir et depuis la première demi-heure.
Avec une exclue, il avait placé un micro dans le vestiaire du PSG. Donc on aura le débriefing de Luis Enrique après cette défaite.
Et puis, on pourra analyser aussi le fait entrer l'accusé qu'on va faire à l'instant, parce que là ça va être très très chaud.
Et puis à 19h, Rotten se chauffe, parce que contrairement à Jérôme, vous croyez au miracle de la Coupe d'Europe pour l'OM. C'est ce soir.
On croit toujours au miracle. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun club qui est capable de nous amener ça.
Mais tout de suite, on parle de balle.
RMC, Rotten sans flamme.
Alors comme ça, je suis l'ennemi public numéro 1. Allez-y, foutez-moi au fond du trou, oui. Oh là. Et je m'évaderai.
Faites entrer l'accusé.
Ce devait être son moment, le rendez-vous de sa saison avec Paris. Kylian Mbappé censé mener donc le PSG vers la victoire contre le Barça. C'est pas du tout ce qui s'est passé. 44 ballons touchés, 13 ballons perdus, 3 frappes tentées, aucune cadrée. Paris qui a dû en se remettre à Dembélé et Vitinha pour marquer des buts. Mbappé qui a été tensé d'ailleurs par la presse espagnole ce matin. Pour le quotidien catalan Sport, Mbappé s'est montré arrogant et s'est fait manger par Jules Koundé, le pur arrière-droit, arrière-droit d'Europe pour Christophe Dugarry. Voilà, donc on parle de Mbappé ce soir. Mbappé accusé d'être passé totalement à côté de son match. L'accusation est d'ailleurs menée par le procureur Dugarry. Bonsoir monsieur le procureur.
Bonsoir à tous.
Ça va en surprendre plus d'un. Mais ce soir, l'avocat de Kylian Mbappé, c'est Maître Dimeco. Bonsoir, Maître.
Bonsoir.
Et le juge.
Quel enthousiasme, ouais.
Ah, mais non, mais comme il posait le procès, est accusé d'être passé à côté. Et ben oui, il est passé à côté. Donc il n'y a pas de procès.
Ouais.
C'est pas ça la question qu'il fallait poser. Mais bon,
c'est quoi la question?
Vous êtes des génies.
Vas-y, c'est quoi la question alors?
Non. Moi, je veux savoir qui c'est qui va l'accuser d'abord avant de le défendre. J'attends de voir les accusations.
On se dédouane pas quand même, Maître. Il faut défendre votre client.
Oui,
le verdict sera rendu par le juge Rotten. Bonsoir, monsieur le juge.
Bonsoir à tous.
Bon, monsieur Dugarry, vous qui êtes le procureur, pour vous, Mbappé n'a pas du tout été à la hauteur hier.
Non, bien évidemment, il n'a pas été à la hauteur et malheureusement, ça s'enchaîne depuis quelques semaines pour Kylian Mbappé.
Alors après, je connais déjà plus ou moins l'argumentation de mon collègue Eric Dimeco qui va défendre son client, et je suis persuadé très bien le défendre, en nous expliquant que malheureusement Kylian Mbappé n'a pas été mis dans les meilleures conditions par son entraîneur, et grosso modo, c'est de la responsabilité de son entraîneur si Kylian Mbappé n'est pas bon en ce moment.
Ça, c'est pas une belle tactique, bon. Monsieur Dugarry, de dévoiler.
Non, mais c'est pas une bonne tactique.
Il a pas d'argument.
Mais,
hein.
Mais c'est pour ça.
Ce procès, mais alors il est facile. Il se dé.
S'il vous plaît.
Je peux y aller?
Pardon.
Alors c'est pour ça que je vais pas attaquer le footballeur, parce que sincèrement, c'est trop facile. Tout le monde a vu le match d'hier. Donc, bien évidemment, que j'ai pas envie d'attaquer la performance lamentable de Kylian Mbappé. Mais là, j'ai envie d'attaquer l'homme Kylian Mbappé. Qui a montré hier, ce qu'il a montré, c'est le pire du football et le pire de l'attitude que peut avoir un joueur de haut niveau. Je parle pas d'un joueur de son niveau, de haut niveau. C'est-à-dire qu'on a le droit de rater des matchs, on a le droit de rater des passes, on a le droit d'être nul. Ça, il y a aucun problème là-dessus. Mais le comportement, l'attitude qu'a eu ce garçon hier est tout simplement et tout bonnement scandaleuse. C'est un scandale pour le foot, c'est un manque de respect, c'est une trahison pour ses supporters dans un stade qui était chaud bouillant, pour ses partenaires, pour les gens qui lui font confiance depuis des années, pour les gens qui le payent, pour les gens qui l'apprécient, et pour le foot, pour un quart de finale de Ligue des Champions. Mais tu as craché au visage de la Ligue des Champions, un quart de finale que soi-disant tu rêves de gagner avec ton club, soi-disant, mais tu as craché sur la compétition, une chance de jouer dans un stade aussi beau que le Parc des Princes, devant le Barça, un quart de finale aller de Ligue des Champions. Ton attitude, l'attitude qu'il a eue sur ce match-là, est une honte absolue. Et j'espère, alors, on va m'expliquer, il y a un match retour, je le crois encore à la possibilité que ce garçon se transforme pour le match retour et fasse gagner son équipe. Je le souhaite de tout cœur. Mais ce qu'il a montré, sincèrement, je trouve que je ne pensais pas que ce garçon pourrait tomber aussi bas. C'est-à-dire que je pense que c'est le pire match que je le vois faire en termes d'attitude. Et déjà, il y en a eu bien avant où l'attitude déjà était à remettre en question, était la cause de beaucoup de problèmes. Alors après, si on veut m'expliquer que c'est la faute à Luis Enrique, que Luis Enrique est responsable du manque d'envie de courir, du manque d'envie d'investissement de Kylian Mbappé, eh bien écoutez, c'est que je comprends plus rien et que c'est une nouvelle fois, je pense qu'il y en a qui font preuve d'un mauvais esprit et qui sont là pour défendre Kylian Mbappé, mais à mon avis, ce serait un peu fort de café de défendre Kylian Mbappé sur un match et de lui trouver des excuses sur le match qu'il vient de faire hier, ce qui est tout bonnement lamentable et scandaleux.
Parole à la défense, maître Dimeco.
Alors justement, je vais pas lui trouver d'excuses, et c'est pour ça que dans le procès, vu l'intitulé du procès, mon client sera condamné obligatoirement. Je peux amener des explications.
Allez, vous, votre idée, c'est qu'il n'est pas l'unique responsable, c'est ça, de sa prestation
hier? Oui. Non, je peux expliquer comment on en arrive là, quand on est Kylian Mbappé, qu'on a fait autant de saisons au haut niveau au PSG. Et qu'on est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde. Que je sache, et je vais encore vous poser des questions, du coup, parce que j'ai le droit de poser des questions à l'assistance quand je défends mon client. Jérôme, on est d'accord que quand tu es allé en finale avec Monaco, c'était souvent la même équipe qui jouait.
C'est vrai,
on est d'accord.
J'ai déjà vécu cette
situation. On est d'accord, voilà, ouais. Donc, on est d'accord que quand
si tu veux parler de ma régularité, de l'importance dans l'équipe, oui, c'est vrai.
Voilà, par exemple. Et on est d'accord aussi que quand tu étais joueur à Monaco, c'est-à-dire au très haut niveau européen, tu préférais jouer que de t'entraîner et tu préférais jouer tous les trois jours. On est d'accord. Et du coup, tu étais en jambe, tu avais le rythme, tu avais la confiance en plus. Parce que du coup, les tours passés, tu étais, voilà. Donc, Maître Dugarry, si je me souviens bien, quand vous avez fait la finale contre Milan, c'est toujours la même équipe à peu près qui jouait, non?
J'ai vécu cette situation.
Hein?
Je comprends pas le rapport, mais.
Cher
confrère, allez-y développer. Quel rapport avec le fait que le mec n'ait pas envie de courir et marche pendant une heure et demie?
Mais vous allez me laisser.
Quel est le rapport?
Mais vous allez me laisser ma tactique de défense quand même, s'il vous plaît.
Tu l'as déjà dit tout à l'heure.
Donc je vous pose une question. Vous jouiez tout le temps, si je me souviens bien, à l'époque, quand vous étiez au niveau. niveau européen. Et vous jouiez tous les matchs, tous les trois jours, et ça vous permet d'être, ça vous permettait d'être à Jean, mais en confiance, on est d'accord?
Non, hein, non, c'est, pas ça
que,
c'est pas ça
plus,
qui me permettait de courir.
Toi, non, ne fais pas trop le mytho parce qu'on a joué ensemble à l'équipe de France, je te connais par cœur. D'accord? Toi, tu préférais jouer que t'entraîner. Donc, je vais revenir à mon propos du jour. Donc, moi, ce qui se passe en ce moment avec, ce qui se passe en ce moment avec Kylian Mbappé, bien sûr que tous les joueurs ont leur responsabilité de leur performance et tout. Ok. Sauf que, vous ne m'enlèverez pas de l'esprit que ce qui se passe là ces derniers jours, parce que je vais cumuler les matchs, parce que ça fait plusieurs matchs qu'il est pas bon.
J'ai parlé de sa performance, j'ai parlé de son investissement, Eric.
Benoît, il faut quand même
on parle pas de sa prestation. Benoît, on est d'accord sur sa prestation, Benoît, Eric.
Il faut que tu lui laisses. Il faut alors, que tu lui dises que.
Non, on est d'accord.
Objection. Le problème que j'ai avec vous, maître, c'est que vous interpellez le procureur.
D'accord.
Juge, donc c'est compliqué de leur demander de pas vous
donc,
répondre.
Pour finir mon propos, Kylian Mbappé, on le croyait surhumain. Il est tout simplement humain et comme tous les joueurs de haut niveau, il a envie de jouer tous les matchs pour être en rythme, pour être en jambe. Il faut qu'il joue. Voilà. C'est-à-dire que tu le fais pas un coup sur le banc, un coup il sort, un coup. Non, non, ces mecs-là, ils jouent tout le temps. Parce que, c'est en plus, lui, c'est un pur sang. C'est-à-dire que c'est un mec qui court beaucoup, qui joue sur sa vitesse.
C'est un pur sang. C'était une chèvre hier. Qu'est pur sang.
Je suis en train de t'expliquer que ce qu'on a vu hier soir, ça pendait au nez. Mais ça fait plusieurs matchs que ça pend au nez.
Ça pendait au nez. Pourquoi? Parce que Eric, il a mis une autre.
Parce que ça fait deux mois qu'il n'a pas de rythme dans les matchs qu'on lui fait jouer. Et deuxième
c'est pour
chose,
ça qu'il pouvait pas courir hier.
Et deuxième chose, Kylian Mbappé, mentalement, eh ben oui, il est touché. On croit que ce garçon-là n'est pas touché mentalement. Mais il est touché. Donc, bien sûr que pour moi,
je m'excuse. Pardon, Kylian. Excuse-moi, Kylian. Vraiment, je suis
désolé. Donc, pour moi, je finis. C'est difficile pour moi de défendre, là, de parler. Mais pour moi, les performances et qui sont inexcusables, s'explique par ce qu'on lui fait depuis deux mois.
Donc voilà, votre client a des circonstances atténuantes, c'est ce que vous dites.
Mais oui, il sera condamné. Il sera condamné, mais j'espère que le tribunal sera indulgent parce qu'il a des circonstances atténuantes. Je suis désolé.
Parce que entre une attaque du procureur qui a été excessive, qui a été très forte, et justement une plaidoirie qui trouve des circonstances atténuantes, quel va être le verdict du juge Roten alors? Qui remporte ce procès? C'est vrai que tout le monde veut savoir.
Écoutez, ce qui me fait plaisir, c'est que tout ce qui se passe actuellement, ça fait plaisir, oui et non. Ça me donne raison sur ce que je dis sur la relation entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, son entraîneur, qui est beaucoup moins bonne. Quoi qu'on en dise, depuis qu'il a annoncé son départ, et on le voit dans les paroles de Luis Enrique, dans les actes de Luis Enrique. N'empêche que aujourd'hui, j'ai plus envie de défendre Kylian Mbappé sur ce match-là. Je donne entièrement raison et j'ai commencé l'émission là-dessus sur l'attitude qui, pour moi, sur ce genre de rencontre, avec autant de d'attentes qu'il peut y avoir sur un quart de finale de Ligue des Champions à domicile dans un stade qui était comble. Et on parle souvent de l'ambiance qui a changé du Parc des Princes, mais hier c'était fantastique. Et je félicite encore les supporters et le club parce que les deux ont travaillé ensemble pour qu'il y ait vraiment un moment très festif et très spectaculaire. Le problème, c'est que les joueurs, et Kylian Mbappé en fait partie, c'est le garant de tout ça, ne peut pas avoir cette attitude-là sur le match d'hier. Dire qu'il fasse un mauvais match.
Tu vois qu'il a souffrance, hein.
Non, mais qu'il fasse un mauvais match, qu'il aime pas son entraîneur ou on veut bien, mais mets ça de côté.
Dire non, tu mets ça de côté. Dis-moi, tu n'as pas joué pour des entraîneurs pour qui tu bandais, tu faisais des efforts pas possibles.
Eric,
tu fais abstraction, Eric, un quart de finale à domicile. Tu fais abstraction, la Ligue des Champions. Tu joues pas pour ton entraîneur.
On a fait
joue pas pour ton entraîneur.
On faisait abstraction, nous, tiens.
S'il vous plaît. Et tu joues pas pour ton entraîneur.
Non, mais c'est bien. Ce qu'il y a de bien, c'est que les vieux qui sont les plus jeunes, ils perdent la mémoire avant les vieux qui sont les plus vieux dans cette émission. Ça me fait plaisir, ça. Je suis content, tu vois.
Pas du tout.
Je suis content parce que là, j'ai deux amnésiques avec moi.
Non, mais je ne suis pas amnésique parce que là-dessus, comme tu dis, moi, je suis désolé. Moi. Écoute, il y a des matchs, tu pouvais être mauvais, tout ce que tu veux. Bah, valait mieux pas que ça tombe sur ce genre de rencontre parce que c'est là qu'on attend les grands joueurs. Quart de finale, aller de Ligue des Champions.
C'est pas comme si on l'a pas déjà vu à ce niveau-là dans notre saison.
Et peut-être
des matchs
où
tous les matchs de Ligue des Champions.
Eric, des matchs où j'étais nul, où j'avais pas envie, où je manquais de respect à mes supporters, à qui tu vas, mes partenaires. Il y en a eu plein. Non, mais il y en a a eu plein. Mais c'est pas parce que je l'ai fait que je dois dire aujourd'hui que c'est une bonne chose. J'étais minable quand je l'ai fait à mon époque, de la même façon que Mbappé est minable aujourd'hui.
Sauf que donc je condamne bien sûr Kylian Mbappé de son attitude. J'espère juste qu'il va se rendre compte que ce qu'il a fait hier, c'est inadmissible.
Donc,
et que la semaine prochaine, à Barcelone,
Dimeco,
il nous fasse gagner, parce que là, le problème, c'est qu'il a encore plus de pression sur le match retour.
Ouais, et qu'il sera mardi prochain. Ah, ça y est, bah justement, l'alerte, l'expérience RMC pour le match retour Barcelone-PSG, mardi prochain, le 16 avril. On vous offre le voyage, la nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC Sport, la place pour le match. Vous avez 5 minutes jusqu'à 18h49 pour envoyer PSG au 732-16, PSG au 732-16, et ainsi voir Kylian Mbappé, eh bien, démentir tout ce qui vient d'être dit, aller contre Christophe Dugarry et prouver que c'est un grand joueur qui peut s'investir et aller porter le PSG vers les demi-finales. Messieurs, vous restez là, dans un instant, on fait rentrer l'artiste Julien Cazard et son Cazard enchaîné qui avait placé un micro dans le vestiaire de Luis Enrique après le match. À tout de suite.
RMC, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h50 sur RMC, on est là dans Rotten sans flamme avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron. Oui, on est encore là, encore une grosse heure après 19h, après le moment de Julien Cazard. On va parler de l'OM. Oui, l'OM, c'est ce soir. Match aller au Stadio de la Luz. Mmh. Eh oui, que connaît bien Eric, la main de Vata. Moi, ouais. Bon, il n'y avait pas main, on ne va même pas dire la main de Vata. Ouais, l'épaule de Vata, il nous l'a dit.
Ouais, ouais.
Écoutez, là, maintenant, on va se détendre avec le moment de Julien Cazard. On y va.
RMC Rotten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Le concombre, compagnon idéal de vos repas, le concombre est frais, diététique et excellent pour la digestion. En salade, cru, en rondelle ou en tzatziki, il enchantera vos papilles. Un conseil toutefois, évitez de vous asseoir dessus.
Bonsoir à toutes et à tous. Il est content, l'autre de son côté. Je le vois, son sourire. Nous sommes le jeudi 11.
Tu demandes à quelqu'un d'enregistrer un truc pareil, c'est ça qui est drôle.
Mais parce que voilà, parce qu'à un moment donné, parce que le Prozac.
Qui est la dame qui fait ça d'ailleurs?
Eh bien, c'est ma copine. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 11 avril 2024 et le PSG n'est toujours pas éliminé de la Ligue des Champions.
On n'a jamais été aussi proche.
Vas-y, mes principes. Profite, Boutron. Il reste que deux jours à faire ta blague. Mais on sera débarrassé. Tu pourras plus la faire. En préambule de ce journal, je voudrais avoir une pensée pour les Marseillais, figure-toi. Oui. Ah. Qui ont vécu le chaud et le froid dans la même journée, puisqu'ils ont pu voir leur équipe gagner au parc. Et ça, c'est cool. Oui, car je rappelle, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de tout ce qui est le nouveau football, il y a la galaxie Red Bull, on sait, il y a le City Group, et il y a la galaxie OM avec le Barça, Chelsea et le Bayern. Donc si vous êtes un peu observateur au stade, vous voyez les survêtes, les casquettes. Donc voilà. Donc hier, c'est dans la galaxie OM, c'est le Barça qui a gagné. Donc une équipe de la galaxie OM qui a battu le PSG, ça c'est formidable. Mais dans le même temps, ils vivent un véritable scandale, vous en avez parlé ou pas?
Pas encore, on va en parler à 19h.
Scandale des supporters de l'OM qui ont vu leur billet annulé, tout simplement, par le président du Benfica. Annulé.
Dénouement, hein, ça va changer.
Oui, bah, moi, tant que c'est pas fait, tu connais mon. Hein. C'est une véritable honte, je pense qu'à Rotten sans flamme, on est tous solidaires de ces gens qui n'ont rien d'autre dans la vie que l'OM et le RSA. Et c'est pourquoi j'aimerais donner la parole à celui qui les représente le mieux. À travers ses analyses pointues. Je veux bien parler du Spinoza de la gare Saint-Charles, le Schopenhauer de la Castellane, le Tocqueville de la Joliette. Je vais bien sûr parler de Gros Samir.
Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille.
Oh mon vieux, on organise tous les déplacements, les casse-croûtes, les typhons, les fumis, les chichons. On est déjà dans le car, on a mis leur ville de vie qui pue la morue dans le GPS. Et l'autre façon de frangipane, il a eu le billet, gros. Mais tu te prends pour qui? On va te cuire le cul, manque de respect.
Excusez-moi, le président du club de Lisbonne a décidé ça en réponse au préfet des Bouches-du-Rhône qui a interdit le déplacement des Lisboètes dans une semaine.
Et alors, ça bat les couilles. C'est pas parce que c'est nous qu'on le fait qu'ils ont le droit de le faire. De toute façon, moi je voulais pas y aller dans cette ville de pecto du rez-de-chaussée.
Ah bah alors pour vous, c'est pas grave.
Et si, parce que si j'y vais pas, c'est parce que c'est moi qui décide, gros. C'est comme pour Marcelino. On voulait qu'il parte, mais c'est pas lui de dire qu'il se casse. C'est nous qu'on dit qu'il se casse. Soit il se casse parce qu'on dit qu'il se casse, soit il reste. Mais s'il se casse, c'est qu'on a dit qu'il se casse. C'est un lâche. Il devait se casser quand on a dit qu'il se casse.
On a du mal à comprendre votre logique.
Eh bien, sucez-vous. Alors,
ceci était une analyse de Gros Samir.
Le problème, c'est quand tu parles obligé, à un journaliste parisien qui ne comprend pas. Au bout d'un moment, t'es obligé d'en arriver là. Gros Samir qu'on embrasse.
Oui.
Qu'on embrasse. Oui, le pauvre.
On dit rien,
mais on l'embrasse parce qu'il a eu des soucis avec son resto à Marseille. Le, Le vice-versa. D'ailleurs, le vice-versa, il m'a dit, tu le dis et tu veux, tu me restes le cul tous les soirs. Et jamais tu parles de mon bar. Donc, il a son bar à Bastille. On peut aller au vice-versa, aussi à Paris, parce qu'il se boboïse. Mais oui, mon vieil, okay. Il se boboïse, le gros Samir, tu as vu? Et il y a le bar, 38 rue Keller, vous y venez de ma part. Enfin, non, vous venez pas de ma part.
Il fait une vraie pub, en plus. Hein.
Non, mais oui, 38 rue, ouais, il m'a dit, sinon il m'a dit, je te fais un procès, on t'envoie, okay. On te casse le cul. Moi, j'ai dit, je préfère faire une pub. Mais n'y allez pas de ma part, par contre. Hein. Parce qu'il va cracher dans le verre. Allez, sommaire. Dans cette édition, nous reviendrons sur la défaite du Paris Saint-Germain. Bien entendu, on savait tous que le PSG allait perdre. Jérôme, quand on a vu qui était aligné et le coup d'envoi, on a dit,
mais t'es sceptique.
Moi, je parle pas de la compo du match. Hein. J'ai vu qu'il était éliminé. Aligné
de 7, qui tu parles?
Ah oui, la compo à MC Sport.
Ouais. Monsieur, c'est pas possible, monsieur, c'est pas vrai. Et ils sont complices?
Non.
Le corner d'Ilka Gundogan.
Voilà, donc merci. Qui est donc Jérôme Sillon? On avait dit quoi sur les matchs du PSG, sur les commentaires? On avait dit pas Jérôme Sillon, putain. On demande pas grand chose. Je demande pas Stéphane Guy, n'exagérons rien. Mais
qu'il aille. C'est pas Riron, c'est pas Valladolid.
Non mais qu'il aille commenter City, c'est les beaux matchs, le Real. Ou l'OM, tiens, qui c'est qui commente? C'est lui qui commente? C'est pas lui qui commente l'OM?
Ah bah non,
eh ben c'est non, bah non. Eh ben non, tu penses? Lui, il commente pas l'OM? Non, nous le fous au PSG. Hein, le bon chat noir, il est pour nous.
Mais arrête, il a déjà commenté. Il a commenté le PSG quand c'est l'OM finale.
Mais c'est le Covid, ça compte pas. C'est toi qui le dis, c'est vous les Marseillais, c'est pas une vraie coupe. D'ailleurs, le match d'hier. Oui, si on l'avait gagné, c'est pas une vraie coupe. Hein, parce qu'à Munich, pour eux, c'est une vraie. D'ailleurs, le match d'hier soir était prévisible pour plein de gens. Surtout pour nous qui sommes souvent dans ce genre de match, il faut une analyse. Il y en a un qui a très bien analysé ce match. Écoutez.
Et la chape parisienne dans le marquage. Hein, ça se voit qu'ils ont vraiment bien travaillé les coups de pied arrêtés. Chacun sait qui doit marquer.
Oui. Le corner d'Ilka Gundogan.
Ils ont bien bossé les coups de pied arrêtés. Là, chacun a son joueur. On n'a pas pris une balle tête. Donc ça, c'est
travailler l'entraînement.
Ah, mais c'est travailler l'entraînement. C'est pour ça que tu peux travailler ce que tu veux avec un âne. Il gagnera pas une course de chevaux. C'est vrai qu'on a senti sur les coups de pied arrêtés qu'on avait bien bossé. Ce qu'on retiendra de ce match, surtout, c'est le merveilleux coup tactique pour finir, celui de Luis Enrique, qu'il avait dit avant. Il avait l'ADN du Barça et il a donné une leçon. À Xavi, on l'a compris dans l'après-match, dans les vestiaires, dans le débriefing.
Bon, ben les gars, super les qualifs, hein, c'est dans la poche là.
Ah ouais, sérieux?
Et Dembouze, le second degré, souviens-toi.
Ah ouais, bon.
Moi, je suis hyper déçu. Bono. Non, mais là, je l'ai fait exprès, Kitch.
Ah les gars, je n'ai que moi à vous dire bravo, bravo, bravo à tous.
J'ai compris, c'est du second degré.
Ah non, pas du tout. Bravo, tout s'est passé exactement comme il l'imaginait. À quelques détails près. Dans le kit, Xavi.
Je suis pas sûr de comprendre, là.
Mais quelle belle défaite, tranquille, sans trembler. Même si j'ai un peu peur, là, en début de deuxième mi-temps.
Alors là, je suis sûr de pas comprendre.
Déjà, pour commencer, Beraldo, hop du match.
J'ai ça, j'ai pas très bon, mais c'est le col du Brésil, du caca-coulotte.
Mais non, c'était parfait, incroyable, tous les matchs. C'était un sans-faute à la ramasse pendant 90 minutes.
Et on aurait quand même mieux fait de faire entrer Danilo.
Non, surtout pas, avec Danilo, vu son jeu de tête, on n'aurait jamais pris le but de Christensen à la fin.
Y'a qu'un du Guronzan, parce que là, j'ai mal au crâne. Hein.
C'est vrai qu'on comprend rien.
Là, tu comprends jamais rien.
C'est vrai aussi.
Mais il dit qu'il est désolé pour les buts. Hein.
Mais faut pas, Didio, c'était génial.
J'aurais dû entrer plus tôt, je les aurais pulvérisés, atomisés. La force était en moi, je les aurais broyés de ma toute puissance. Donnez-moi le mégaphone.
Mais non, toi, à la limite, j'ai regretté ton entrée parce que tellement tu étais énergique. Tu pouvais pas prendre exemple sur Luis. Regarde-le, lui, il joue à la vitesse d'un vétéran du FC Montargis. On dirait qu'il a la mononucléose. Il est nickel. Si on ajoute Asensio complètement paumé devant, lié à la ramasse, Luca perdu arrière-droit pendant 20 minutes. Le coup tactique était parfait et les clous du spectacle. C'est toi, Kiki. Toi, c'est incroyable. Être aussi nul dans un tel match de haut niveau. Mais peu de coachs ont réussi ce coup de génie avec toi avant moi.
Et on peut avoir une explication, là, ou...
Mais c'est l'ADN du Barça, l'explication.
Ah.
C'est quoi l'ADN du Barça? La remontada. Et oui, la remontada. Mais pour la remontada, il faut une montada. Si tu fais pas montada, il n'y a pas besoin de remontada, vous comprenez? Moi, ce que je voulais, c'était les remontader. Et donc, il fallait bien se faire montader. Parce que si c'est nous qu'on les avait montadés, c'est eux qui nous auraient remontadés. Alors que c'est nous, là, qu'on va les montader, parce qu'ils nous ont montadés.
Oui, enfin, on s'est fait surtout démontader, parce qu'ils nous ont bien, bien démontadés. Hein.
Oui, c'est ça. Donc maintenant, on va pouvoir les remonter. Je suis un génie.
C'est drôle parce que c'est la technique qu'avait utilisée Galtier l'an dernier contre le Bayern.
Et vous les aviez remontadés?
Ah non, pas vraiment. Non.
C'est qui, c'est Galtier?
Non, c'est personne. Il coach une équipe du Qatar.
Et moi aussi.
Non, mais lui, c'est une équipe de nuls. Hein.
Et moi aussi. Mais la différence, c'est que votre Galtier n'a pas l'ADN Barça. Alors que moi, oui.
Excusez-moi, je peux vous prendre une mèche de cheveux?
Oui, pourquoi t'es fétichiste?
Non, c'est pour faire un test ADN.
Moi, j'y crois. Il nous reste 4 jours pour y croire.
Bravo, Julien. À tout à l'heure.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
À tout à l'heure pour Rotten contre le reste du monde. Et nous, dans un instant, on parle de l'OM. L'OM ce soir sur la pelouse du Benfica. Est-ce que, contrairement à Jérôme Rotten, vous croyez au miracle de la Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille? À tout de suite sur
RMC. RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.